lyon-g.fr.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off. La religion, c'est bien pratique. Ça permet aux pauvres d'accepter d'être écrabouillés par le riche, en quelque sorte. C'est... La religion, pour les pauvres, les femmes, ça va très bien. Mais faut pas qu'ils s'occupent de politique. C'est le point de vue voltairien, hein, très pragmatique. La bourgeoisie, ils veulent pas que l'Église foute son nez dans les affaires politiques. Le christianisme, pour ces gens-là, peut être gênant, soit parce qu'il est réactionnaire, soit parce qu'il est progressiste. Danger hein, d'un christianisme social. Après tout, il y a dans le christianisme des éléments qui peuvent être des éléments anticapitalistes. Il peut y avoir une influence chrétienne qui serait tout à fait dommageable aux affaires. Donc, pour plein de ces éléments, la grande bourgeoisie, en France en tout cas, décide de rompre avec cette confusion entre l'Église et l'État. L'Église reste à sa place. Pour ces gens-là, elle a une place utile. Et lorsqu'elle prône la résignation sociale, etc., et le respect des autorités, du pouvoir, etc., si l'Église était restée tranquillement dans son rôle purement religieux, idéologique, etc., elle n'aurait pas eu ces histoires. Mais elle avait des prétentions, à l'époque, collusion entre l'Église catholique française et les milieux réactionnaires anti-républicains lui a été fatale.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans la première partie de cette émission sur la loi de 1905, loi dite de séparation des églises et de l'État. Une saga en deux volets pour survoler un large pan de notre histoire de France avec notre ami André. Salut André.
Bonjour à tous.
Première surprise, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État n'est pas tant née sur l'impulsion de la gauche de l'époque, libertaire, socialiste ou anarchiste. Mais cette loi voit en fait le jour sur l'initiative de la bourgeoisie française, de la droite de l'époque, qui veut séparer le religieux du pouvoir et donc du pognon. Car le fond de toute affaire en revient toujours là, au fric. Une histoire passionnante, notre histoire, qui dans quelques instants va vous faire remonter le temps jusqu'à la Révolution française de 1789.
Fantasy
Nous sommes réunis autour de ce micro pour évoquer la loi du 3 juillet 1905, loi de séparation des églises et de l'État.
Bien sûr que c'est l'Église catholique qui est visée en premier, mais ça concerne toutes les religions, y compris celles qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui.
Une saga autour de cette loi de 1905 en deux parties. C'est la première partie aujourd'hui qui devrait vous embarquer en 1870 et vous débarquer en 1905. Et au prochain épisode, deuxième partie 1905 jusqu'à nos jours. Avant de revisiter une partie de l'histoire de notre République, André, il faut quand même souligner l'un des actes politiques et symboliques importants de la Révolution française, la scission entre le pouvoir politique et le divin. Le roi était roi parce que investi par Dieu pour être roi. Et la Révolution française apporte ça, de séparer le pouvoir du spirituel.
Bien sûr, on désacralise le pouvoir complètement. Hein. C'est aussi pour ça que Louis XVI perd la tête. Hein. Capitaine Louis XVI, très symboliquement et très pratiquement, on supprime un pouvoir qui revendiquait son origine divine, sacrée.
Cela ne veut pas dire pour autant que nos révolutionnaires ne sont pas des êtres spirituels. On sent d'ailleurs, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu embêtés quand même avec cette question de Dieu et du divin ? Parce que Dieu est chassé, mais enfin, apparaît quand même l'être suprême.
Il est vrai que Robespierre prend acte du fait que la majorité des Français restent catholiques, chrétiens, et que la Révolution aurait tort de décréter l'athéisme, la suppression de la religion. On ne décrète pas la suppression de la religion. Robespierre ne voyait pas d'inconvénient à ce que les Français continuent de pratiquer leur culte. Il pensait que les ennemis étaient ailleurs, y compris d'ailleurs parmi les athées. Hein. Il voyait dans ce combat athée une sorte de diversion au combat principal, qui était un combat politique, social, et non pas un combat contre la religion. Les ennemis, c'était pas les prêtres pour Robespierre. Bien sûr, il prenait acte aussi de l'opposition catégorique de l'Église catholique et de la plupart des prêtres, et de Rome, bien sûr, à leur tête, leur opposition à la Révolution française. Alors comment faire pour, malgré tout, contrer la contre-révolution, encouragée par l'opposition religieuse et en même temps ménager chez les Français, les citoyens, leur foi catholique. Et c'était ça aussi, l'être suprême, c'était en quelque sorte rendre raison à l'être suprême et à la raison en même temps, puisque ce sont des gens du XVIIIe siècle, ne pas choquer en quelque sorte les convictions religieuses des gens, mais mener quand même le combat contre la partie la plus réactionnaire de l'Église. Bon, ça a été un échec complet. D'ailleurs, Bonaparte, qui clôt la Révolution française, il va rétablir l'Église catholique dans une partie de ses prérogatives, tout en la soumettant politiquement. Le concordat, l'accord avec Rome, vous nous laissez tranquille, on vous laisse tranquille. Ce n'est pas une laïcisation complète de l'État, mais c'est une séparation politique entre l'Église et l'État français. Bon, pendant la Révolution française, le compromis n'a pas pu avoir lieu. Mais le compromis est tout à fait possible. La Révolution française se fait pas contre la religion catholique, ni contre aucune religion. Elle se fait contre le pouvoir réactionnaire de l'Église catholique. Et d'ailleurs, protestants et juifs, pendant la Révolution française et l'Empire, sont tout à fait favorables à la Révolution française et à l'Empire, puisque ça leur permet d'avoir un culte libre et de devenir des citoyens à égalité avec les catholiques. Donc, en fait, ils sont pour, globalement, hein, pour la Révolution française.
Pour chasser le cliché du peuple contre les méchants curés, la Révolution française est aussi menée par des représentants du bas clergé, par des petits curés.
Ben oui, bien sûr, au début de la Révolution française, l'ordre du clergé, constitué par des curés de campagne, des gens assez modestes, en grande majorité, et par le haut clergé, qui lui est bien sûr attaché à l'ancien régime, aux privilèges, etc. Et il va y avoir la scission, hein. Et effectivement, le bas clergé, dans sa majorité, rejoint le tiers-état, et c'est ce qui va permettre de faire la révolution, la première révolution, hein, à l'été 89, c'est-à-dire créer une assemblée nationale constituante, etc. Au départ, avant l'intervention de Rome du pape, le bas clergé est tout à fait favorable à ces, même à l'institutionnalisation de l'Église, car la première constitution, celle de la constituante, hein, la première constitution qui voit le jour, celle qui naît de la Révolution française, de la première Révolution française, elle transforme les prêtres en fonctionnaires. C'est-à-dire les prêtres sont élus par leurs paroissiens, les évêques aussi, bien sûr, sous la bénédiction du pouvoir, des instances électives représentatives. Et les prêtres sont payés, et ils sont mieux payés que sous l'Ancien Régime, ce qui fait que pour le prêtre, c'est une amélioration de sa condition sociale. À la place de la portion congrue que recevait le pauvre prêtre de campagne non propriétaire, il reçoit un salaire qui est un salaire beaucoup plus décent. Donc au départ, ils sont d'accord. Il faudra qu'il y ait la condamnation du pape et la résistance de la cour et de Louis XVI, qui suit le pape évidemment, pour que se constitue un clergé réfractaire du fait que le pape interdit aux prêtres de prêter serment à cette constitution. C'est Rome, c'est le Vatican qui est à l'origine de la rupture en quelque sorte, c'est pas la Révolution française. Et ils sont bien embêtés d'ailleurs, les bourgeois de la Révolution française, d'avoir l'opposition de Rome et d'une partie du clergé réfractaire qui va nourrir la contre-révolution. Parce qu'ils auraient bien aimé avoir les prêtres avec eux. À partir de ce moment-là, de cet interdit pontifical, il va y avoir plus d'un siècle d'opposition, mais radicale, hein, de l'Église catholique à Rome et en France, opposition à la République, aux principes républicains, à la souveraineté nationale. Pendant un siècle, en quelque sorte, l'Église catholique va réaffirmer le caractère sacré du pouvoir d'origine divine et l'impossibilité de séparer ce qui est du domaine politique et ce qui est du domaine religieux. Il faudra attendre avec beaucoup d'hésitation les premières bulles pontificales des années 1880 puis 1901, etc., pour avoir un ralliement, même si c'est un ralliement non sans opposition, un ralliement de l'Église catholique à la République. Pas à la République révolutionnaire, hein, à la République bourgeoise.
Avant de passer au début de la Troisième République en 1870, je voudrais qu'on s'arrête sur cette date, André, 1801. Qu'est-ce que le régime du Concordat ?
Ce qu'on appelle un Concordat, c'est un traité entre le régime en France et Rome, le pape, chef de l'Église catholique romaine. Le Concordat dont nous allons parler, celui de 1801 avec le consul Bonaparte, n'est pas le premier Concordat. Hein. Il y en avait un avant. Le concordat précédent datait de François Ier et il réglait les rapports entre la France, l'État français, quel qu'il soit, et Rome. C'était nécessaire dans la mesure où, depuis le Moyen-Âge, l'Église catholique revendiquait la souveraineté sur les prêtres et sur les catholiques, en quelque sorte. Pour le pape du Moyen-Âge, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de souverain absolu, il y a Dieu et le pape qui est le représentant de Dieu sur terre, en quelque sorte, enfin, du moins le représentant de ses ministres sur terre. Et la papauté a longtemps essayé de soumettre les monarques à son pouvoir. Alors, bien sûr, les monarques ont, ici et là, résisté à l'autorité pontificale, mais il était nécessaire d'établir les règles présidant au rapport entre pouvoir du pape, donc de l'Église, et pouvoir local, enfin du pouvoir dans le royaume du roi. Bon, c'était réglé par un concordat, enfin c'était réglé. Il y a quand même eu une véritable guerre entre Louis XIV, par exemple, et le pape. Hein. Louis XIV voulait avoir autorité absolue sur la nomination des évêques et des abbés, et entendait pas que le pape vienne régler ses problèmes, qui étaient des problèmes financiers aussi, hein, parce qu'il y avait de très gros revenus à la clé, des grosses prébendes, enfin de gros revenus sur l'Église, et c'était une façon pour Louis XIV aussi d'abord d'avoir des revenus et aussi d'établir son pouvoir politique.
C'est marrant ce que tu dis, parce que à chaque fois qu'on parle de religion, quand on gratte un peu, on voit que derrière le religieux, il y a des histoires de pognon.
Mais oui, bien sûr, l'odeur de l'encens essaye de masquer l'odeur du pognon. Bon, quoi qu'on dit que le pognon a pas d'odeur, ça c'était celui qui avait inventé les Vespasiennes, hein, Vespasien, tu sais, qui avait mis une taxe sur les pissotières publiques, et donc on lui prête cette parole, l'argent n'a pas d'odeur.
Souvent, l'odeur n'a pas d'argent non plus. Hein.
Oui, la réciproque est vraie. En tout cas, Louis XIV établissait un pouvoir absolu. Dans ce pouvoir absolu, l'Église était une aide pour le pouvoir absolu de Louis XIV. Sur quoi s'appuyait le pouvoir de Louis XIV ? Sur la fidélité de sa noblesse et sur l'autorité de l'Église aussi. L'Église, en même temps que Louis XIV soutenait l'Église, car Louis XIV a soutenu l'Église hein, en faisant des répressions religieuses assez vigoureuses hein, et affreuses. Et en même temps, l'Église soutenait le trône. Hein, c'était un deal, enfin un arrangement entre les deux. Mais il fallait pas que dans l'histoire, le pape vienne mettre son nez là-dedans, en quelque sorte. Hein. Bon. Bonaparte, le consul Bonaparte, hein, il n'est pas encore empereur en 1801, décide de régler le problème des rapports entre l'Église catholique, dont il a besoin lui aussi, et l'État français. Et il signe avec le pape. Alors bien sûr, le pape est obligé de signer ça parce que Bonaparte a fait la conquête d'une partie de l'Italie hein, et donc menace les États pontificaux. Mais malgré tout, c'est un accord qui, bon, semble convenir aux deux. Bonaparte a besoin de l'Église, il a besoin du soutien politique de l'Église. Hein. Il va y avoir un catéchisme impérial bientôt, hein. Et il a donc besoin d'un appui politique. Il sait l'influence politique du clergé, il veut mettre fin à la guerre religieuse qu'avait ouvert la Révolution française et l'opposition du pape, et donc il veut le soutien de l'Église, donc il est obligé de concéder à l'Église. Mais en même temps, l'Église va être un fidèle soutien de l'empereur.
Bonaparte, pour asseoir et amplifier son pouvoir, se repart du pouvoir divin, en fait. Hein. C'est une manière de dire « Dieu est avec moi ».
Bien sûr, Bonaparte se fait couronner empereur par le pape. Alors bien sûr, le pape, on est obligé de l'emmener, manu militari en quelque sorte, l'emmener. C'est un petit peu contraint et forcé que le pape opère ce parce que Bonaparte comprend qu'il y a encore dans la majorité des mentalités populaires cette notion de sacré. Il a besoin d'asseoir son pouvoir, qui est un pouvoir militaire, puisque c'est une dictature, hein, le consulat. Il a besoin d'établir son pouvoir sur la mentalité. C'est de la propagande. Alors que lui-même ne croyait pas en Dieu, on sait qu'il était athée, Bonaparte, complètement. Mais il l'a dit d'ailleurs, on a des témoignages tout à fait fiables de ses proches, Bonaparte disant, la religion c'est bien pratique, ça permet aux pauvres d'accepter d'être écrabouillés par le riche. Il y a un aveu cynique de la part de Bonaparte, de l'utilité de la religion pour faire accepter leurs conditions aux pauvres. Et il le dit tel quel, il dit, eh bien voilà, comme ça, ils acceptent d'être pliés sous le joug des riches, mais ils savent qu'ils seront à la droite de Dieu, hein, c'est dans l'Évangile, etc. Voltaire, qui était anti-Église à fond, anticlérical, virulent, avait exactement les mêmes propos. L'Église, la religion, c'est bien pour que les peuples payent leur loyer, en fait, et que les ouvriers restent tranquilles. C'est un cynique aussi, Voltaire. Hein, contrairement à Marx, qui, lui, souhaitait l'émancipation des pauvres et des travailleurs, bien sûr. Mais pour revenir au Concordat, que dit-il, le Concordat? Eh bien, le clergé sera nommé par des ministres des cultes. Jusqu'en 1905, il y a un ministre des cultes, qui est généralement le ministre de l'Intérieur. C'est celui qui nomme les préfets, il nomme également les évêques. Les évêques français sont nommés par l'autorité politique, administrative. Alors c'est important, hein, évidemment. Et ensuite, après, cette élection est consacrée par le pape, hein, qui lui donne son anneau, sa crosse, sa mitre, etc. Mais il est nommé d'abord. Donc les évêques, jusqu'en 1905, ils intriguent de façon à se faire nommer. Il faut qu'ils soient proches du pouvoir. On voit ça très très bien dans deux œuvres d'Anatole France, L'Orme du Mail et L'Anneau d'Améthyste, où on voit les intrigues menées par les membres du clergé pour se faire nommer évêque. On voit que la nomination des évêques est une nomination politique. C'est à ça que va mettre fin la séparation de 1905 dont nous allons parler.
Néron de Nantes, de nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne.
Néron de Nantes, de nom de Dieu, mon nom est Père Duchêne. Marat fut généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu.
Je veux parler sans gêne, nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne.
Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu.
Et je couche sur la paille.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses.
Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire blotter les fesses, nom de Dieu. Se faire blotter les fesses.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire.
Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire.
Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu.
Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves.
Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron bourgeois et prêtre sans Dieu.
Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne.
Le mythique père Duchesne est supposé être un homme du peuple qui hait l'Église, c'est bien la bourgeoisie française qui est à l'origine de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. Une histoire que vous raconte notre ami André qui vous amène maintenant en 1870, la défaite de l'Empire français face aux Allemands qui, voulant un interlocuteur viable pour discuter de leur victoire, permettent la création de la Troisième République française. Or, les membres du Parlement de cette nouvelle République sont quasiment tous monarchistes, anti-républicains. Au lieu de se battre contre les Allemands, les dirigeants de la France retournent leurs armées contre les Français patriotes de la Commune de Paris et les font massacrer.
Oui, c'est quand même une situation tout à fait extraordinaire. C'est que, bon, le 4 septembre 1870, la bourgeoisie républicaine décide, à l'Hôtel de Ville de Paris, de proclamer la République. Et la Commune de Paris naît à ce moment-là en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a occupation d'une grande partie du nord de la France par les troupes prussiennes, allemandes, etc. L'empereur a abdiqué et au lieu de nommer empereur successeur le fils de Bonaparte, Napoléon III, des membres de la grande bourgeoisie parisienne décident de proclamer la République. Et en même temps, on négocie avec les autorités allemandes, évidemment. Bismarck a besoin d'avoir des interlocuteurs. On connaît cette histoire-là. Ils vont céder tout à l'Allemagne de façon à s'occuper de la Commune. Il s'agit de libérer l'armée française de ses problèmes militaires avec l'Allemagne de Bismarck de façon à écraser la Commune de Paris qui est un danger pour la bourgeoisie et les classes dirigeantes en France. Pour les classes dirigeantes, le danger n'est pas le danger extérieur, c'est le danger intérieur, c'est sur le front de la lutte des classes, de la lutte intérieure, qu'ils vont placer l'essentiel de leurs forces. Pour eux, le danger n'est pas de payer X milliards de francs or à l'Allemagne, ni de céder l'Alsace-Lorraine, parce qu'ils vont tout céder. Ils vont tout céder à Bismarck, qui va obtenir la cession de la Moselle et du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, etc., et également une indemnité de guerre tout à fait considérable. Ce qui est important pour cette bourgeoisie, ce qui est important, c'est d'écraser cette tentative, cette odieuse tentative de révolution socialiste qui a éclaté à Paris, qui est en même temps un mouvement patriotique destiné à lutter, à continuer de lutter contre les Allemands.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.
Alors après une tentative de résistance de cette première république avec Gambetta de repousser les armées allemandes, ce qui échoue, on va s'occuper de la commune de Paris. Alors que Paris est encerclé par les troupes allemandes, les troupes de Versailles, le gouvernement de Versailles avec Thiers, l'odieux Adolphe Thiers, va s'occuper des ouvriers de Paris et il va y avoir une répression épouvantable. Donc c'est dans le sang du peuple de Paris et des ouvriers de Paris que va naître la République en quelque sorte. Or cette République, alors même que la commune n'est pas encore finie d'être assassinée, il va y avoir des élections d'une assemblée qui va se réunir à Bordeaux. Et cette assemblée, elle est à très large majorité monarchiste. Elle n'est pas républicaine. Alors même que la direction à Paris, c'est la République officiellement, il y a une assemblée monarchiste. Alors cette assemblée monarchiste est constituée par des légitimistes, par des orléanistes et par des bonapartistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois prétendants au trône de France qui se partagent la majorité. Cette assemblée a été élue essentiellement par des masses rurales, complètement soumises à l'influence de leurs notables conservateurs et qui ont peur. Ils ont peur des rouges, des partageux, des communards, etc., qui vont leur prendre leurs biens. Et donc, ils appellent à voter le plus à droite possible. Et le plus à droite possible, c'est pour les candidats soit bonapartistes, il y a encore des partisans de Napoléon III ou de ses descendants. Il y a aussi des légitimistes, alors eux sont partisans du duc de Chambord, descendants de Louis XVI. Et puis il y a des orléanistes qui sont favorables à l'élection de Louis-Philippe d'Orléans. Il y a des nuances entre les deux, hein. Ces trois types de régimes s'opposent, disons, au suffrage universel, à la souveraineté nationale et aux grands principes démocratiques et de liberté de la Révolution française. Sous trois formes différentes, mais enfin, c'est quand même des monarchistes, quoi. Et il faudra presque 6 ans pour que la République s'installe définitivement, c'est-à-dire qu'en fait, elle est une majorité de députés acquis à la République elle-même. Donc ça s'est pas fait tout seul, c'est-à-dire que de 1871 à 1877-79, le sort de la République n'est pas encore complètement assuré. Il va y avoir d'ailleurs une tentative de coup d'État monarchiste en 1877. Le président de la République, le fameux Mac Mahon, qui a été tant brocardé par la presse républicaine, le fameux maréchal Mac Mahon, va tenter de passer par-dessus l'opinion d'une assemblée nationale qui est devenue républicaine. En 75, la majorité passe aux républicains. Et Mac Mahon essaye d'imposer un ministère contre l'avis de cette assemblée. C'est ça le critère, en quelque sorte, monarchiste ou républicain. C'est tenir compte ou ne pas tenir compte du suffrage universel. Et Mac Mahon est obligé de céder. 1877. Donc, c'est la victoire assurée pour les républicains. Mais quels républicains? Il ne s'agit pas de républicains, comment dirais-je, socialistes, révolutionnaires. Ce sont des grands bourgeois, très conservateurs, qu'on va appeler les opportunistes. Pourquoi opportuniste? C'est que ces gens-là auraient aussi bien pu être monarchistes. Peu leur importe la forme du pouvoir. L'essentiel, c'est de garder le pognon, de garder le pouvoir économique et social. Les lois conservatrices, bien sûr. Donc, pourquoi pas une république sociale? En quelque sorte, c'est la thèse de Thiers, celle qui va être adoptée par cette grande bourgeoisie, Jules Fabre, Jules Ferry, etc., Jules Grévy, la République des Jules, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on l'appelait. Cette République des Jules, c'est une république conservatrice. Pas réactionnaire, mais conservatrice. Et elle a contre elle des gens encore plus réactionnaires, c'est-à-dire les monarchistes. Car les monarchistes existent encore, ils ont une influence, ils ont une puissance, ils restent anti-républicains. Et c'est dans le cadre de cette lutte entre républicains conservateurs et monarchistes que va débuter la lutte contre le cléricalisme, la lutte pour la laïcité, pour la laïcisation de cette république. Comme la droite réactionnaire, monarchiste et cléricale est soutenue par l'église catholique, catholique française. C'est pour ça que les républicains, y compris les républicains bourgeois, éprouvent le besoin d'abattre le pouvoir politique, l'influence de l'Église catholique, et éprouvent le besoin de laïciser les institutions. C'est ça le fond de l'affaire. Alors bien sûr, il y aura des péripéties, parce qu'à gauche de cette droite républicaine conservatrice naît un mouvement républicain radical, une gauche en quelque sorte. On va simplifier, hein. Au départ, la petite bourgeoisie, celle qui était républicaine en 1848, éprouve le besoin de faire une république qui ne soit pas seulement une république conservatrice, mais aussi une république progressiste, une république plus à gauche. Leur programme, c'est d'appliquer complètement les principes de 89.
Alors André, on peut s'étonner qu'à l'Assemblée, qu'au Parlement, il y ait tant de conservateurs, de monarchistes, de bourgeois, car le suffrage a été rendu universel.
Le suffrage universel, qui n'existait pas sous la Restauration et les monarchies de Juillet, puisque ces deux monarchies vont rétablir un suffrage censitaire, c'est-à-dire réserver le droit de vote aux riches. Hein, il y avait très peu d'électeurs, hein, 150 000 à 200 000 électeurs sur toute la France. Hein, c'est... Bon, ce suffrage est rétabli par la Révolution, suffrage universel, masculin, et rétabli par la Révolution de 1848. Qui établit la Deuxième République. Et il ne sera plus mis en cause. Il va être manipulé, il va être détourné, il va être dénaturé, mais il ne sera pas remis en cause. C'est-à-dire que Napoléon III, lorsqu'il fait, Louis-Napoléon Bonaparte, lorsqu'il fait son coup d'État, alors qu'il est président de la République, hein, lorsqu'il fait son coup d'État de 1852, il maintient le suffrage universel. Simplement, il va le dénaturer complètement, c'est-à-dire que ce suffrage universel ne contribue qu'à envoyer une assemblée de notables qui a peu de pouvoir en face d'un exécutif fort, hein, puisque Napoléon III, c'est quand même une dictature. Hein, même si ça se pare des couleurs du libéralisme, c'est quand même une dictature. Le suffrage universel, en quelque sorte, est sans effet sous le Second Empire. Lorsque, le 4 septembre 1870, la bourgeoisie proclame la République, il y a toujours le suffrage universel.
La République et la démocratie, c'est ce tour de passe-passe qui permet à des pauvres de voter pour des riches. Et puis on se souvient aussi de ce dessin de Daumier, un humble paysan qui va voir le notable de son village et qui dit « Monsieur le notaire, qu'est-ce que c'est qu'un bibicite ?»
C'est un mot latin qui veut dire « oui ». Oui, bien sûr, mais Daumier, l'extraordinaire Daumier, dans son dessin satirique, il montre le pouvoir des notables et la manipulation du vote populaire, du vote des paysans, des gens modestes, pour les notables, pour les riches. D'autant qu'à l'époque, le vote n'est pas secret. Il n'y a pas de vote secret. On sait pour qui vous votez. Les domestiques votent pour leur maître, ou pour le parti de leur maître. Donc il y a des consignes.
Mais pas d'isoloir.
Mais non, il n'y a pas d'isoloir. Le secret du vote n'est pas... Ce qui fait qu'on voit bien pour qui les gens votent. Ce qui fait que les votes de gauche, c'est seulement en ville. Bon, des gens qui ne craignent pas de voter à gauche, alors que dans les campagnes, on vote pour notre maître. Hein. Ah, monsieur le marquis, mais notre maître... Hein,
mais si on vote pas pour notre maître, il nous fout dehors aussi, à la rue, sans boulot, sans logement.
Bah, bien sûr, c'est évident, il y a une pression considérable. Et puis, il y a aussi un autre élément qui intervient, c'est que la paysannerie française, une fois achevée la Révolution française, c'est-à-dire la suppression des privilèges, des droits féodaux, seigneuriaux, tout ce qui pesait sur la paysannerie de l'Ancien Régime, hein, qui était pressurée de partout, une fois supprimé ça, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le loyer, la rente de la terre, qui va au propriétaire, et il reste l'impôt foncier. Et cette petite ou moyenne paysannerie parcellaire, qui possède des petits bouts de terrain, elle est propriétaire. Elle est déjà propriétaire d'un petit peu, d'une petite chose, d'une petite bicoque, d'un petit jardin. Et il est facile de lui donner une mentalité de propriétaire et de la faire adhérer, en quelque sorte, au parti de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. C'est un peu comme de nos jours, hein, la personne qui devient un petit bourgeois pavillonnaire, il est propriétaire, il a peur qu'on lui nationalise sa caravane, etc. Et l'embourgeoisement, entre guillemets, en fait, hein, d'une bonne partie de ces classes rurales, même urbaines, amène à un vote, sinon conservateur, en tout cas modéré. D'ailleurs, dans un discours de Jules Ferry, des années 1880, il le dit tel quel. Il dit, depuis la Révolution française, les paysans sont devenus propriétaires et sont devenus conservateurs. Il s'adresse aussi aux bourgeois. N'ayez pas peur du suffrage universel. Ce suffrage universel, il est sans effet sur notre pouvoir, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il permet quand même de porter à l'Assemblée nationale, malgré le suffrage universel, une majorité conservatrice. En cela, la France est assez en avance sur beaucoup de pays européens, même sur l'Angleterre. N'oubliez pas qu'en 1880, en Angleterre, il n'y a pas le suffrage universel. J'entends ça encore, c'est une connerie à la radio, l'Angleterre qui a inventé la démocratie. mais non, elle a inventé le Parlement. C'est tout à fait autre chose. Hein. Le Parlement anglais, jusqu'en 1900, il est élu par les riches, il est élu par les propriétaires, il est élu par la bourgeoisie, petite, moyenne ou grande. L'essentiel, la classe ouvrière, est écartée du droit de vote. Il faut attendre l'extrême fin du 19e siècle, et même peut-être presque la veille de la guerre 14-18, 1907, je crois, pour que naissance d'un parti travailliste et suffrage à peu près universel. Non, le suffrage universel, cette audace, elle a été celle de la bourgeoisie française, qui a bien compris que même le suffrage universel, on pouvait le manipuler, et on pouvait manipuler l'opinion publique. Hein, ce qu'on appelle aussi l'opinion publique, hein, c'est la plupart du temps le fruit d'une énorme manipulation, d'un travail long de suggestion. Vous n'allez pas voter pour des partageux, vous n'allez pas voter pour ces communards qui vont vous nationaliser votre vache, votre poulailler, etc. Brandissez l'épouvantail de ces affreux partageux, etc. Et donc, on votait à droite, tout simplement, c'est-à-dire pour le notable du coin. Il y avait dans chaque village des notables, prêtres, docteurs, gros propriétaires fonciers, employeurs, patrons d'une fabrique quelconque. Ces gens-là qui savaient le latin, qui savaient parler, qui savaient écrire, qu'on votait. Mais ce réflexe existe encore de nos jours. Hein. J'ai vécu dans des communes, dans des municipalités, où on votait pour les commerçants, les propriétaires, les notables, en quelque sorte. Les gens qui savaient, hein, qui avaient de l'instruction, qui avaient aux grandes écoles. Hein. On votait pas pour un militant ouvrier ou pour un représentant des gueux, en quelque sorte. Ça, c'est vrai, ça. Bon, c'était pas partout, hein. Il y a eu aussi des communes rouges. Mais enfin, dans l'ensemble, le réflexe conservateur était très... Tant que la France a été rurale, ça a fonctionné, hein. Jusqu'au XXe siècle, ça a fonctionné, ça. La France rurale a pesé sur la France urbaine. Bon, malgré tout, quand même, le sentiment républicain se répand dans les campagnes, quand même, à cette époque-là. Il y a le souvenir de la Révolution française. La paysannerie se souvient encore qu'elle a eu des comtes et des marquis, des seigneurs qui l'ont pressurée. Et confusément, une bonne partie de la population en France sent bien que la République est quand même plus favorable à ses intérêts que la monarchie, que les nobles, etc., qui sont derrière les monarchistes. Et donc, le sentiment républicain l'emporte. Mais au bénéfice, à cette époque-là, de la grande bourgeoisie conservatrice, industrielle et financière, qui est derrière les hommes politiques dont nous allons parler, et qui va continuer de dominer la France. Je signale un ouvrage d'un certain Emmanuel Beau de Loménie. Cet ouvrage s'appelle « Les responsabilités des dynasties bourgeoises ». C'est absolument remarquable, parce que cet homme, qui vient très curieusement plutôt d'un milieu de monarchistes légitimistes, vieille noblesse de province, etc., a été aux affaires pendant Pétain, pendant la France de Vichy, et a donc fréquenté la bourgeoisie, la grande bourgeoisie et les dirigeants français. Il a écrit, après la guerre, un ouvrage qui est une véritable petite bombe, selon moi. Il part de 1815, c'est-à-dire la fin de l'Empire, et démontre de façon très convaincante, hein, car ce qu'il dit est parfaitement vérifiable, il démontre que la France a toujours été dirigée par une grande bourgeoisie industrielle, commerciale et financière, qui a toujours été derrière les décisions et les régimes politiques qui se sont succédés en France. De façon très discrète, évidemment. Ces gens n'apparaissent pas comme aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, nous sommes sous un régime oligarchique, mais personne ne sait que nous sommes dirigés par ce régime oligarchique, et on a l'impression que c'est nos ministres et nos députés qui font la loi, ce qui n'est pas vrai.
Allons, fils de la République, le jour du vent est arrivé. arrivée contre nous de la noire clique. L'oriflamme ignoble est levé, l'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes croasser leur stupide chant? Ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Vous êtes toujours avec André, professeur d'histoire-géographie, au cœur de cette histoire de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. On est encore en 1870, à la création de la Troisième République. Alors comment expliquer que les parlementaires de cette République soient si peu républicains et tellement monarchistes ?
D'abord, la Révolution française a mis fin à un ancien régime fondé sur le privilège, la naissance, une noblesse propriétaire, un clergé puissant et influent, et une monarchie absolue de droit divin. Mais pour autant, les révolutionnaires n'ont pas coupé la tête à tous les nobles et à tous les aristocrates. Il est resté des aristocrates, des gens sont revenus. Après, il y a eu une loi d'amnistie, d'abord de Bonaparte, hein, beaucoup d'émigrés sont revenus, ont récupéré leurs terres. Il faut lire Balzac, hein. Il y a des gens qui redeviennent marquis, comtes, etc., vicomtes, récupèrent leurs châteaux, leurs terres. Alors, ils ne récupèrent plus leurs privilèges, certes, mais ils sont encore propriétaires, très influents. Ils ont des dizaines, voire des centaines de métayers, de fermiers qui les font vivre, hein, et grassement, etc. Bon, et ces gens-là sont nostalgiques de l'Ancien Régime. En plus, ils déplorent que les régimes qui ont succédé se soient attaqués à l'Église, sont des gens qui sont catholiques, bien sûr, puisque le catholicisme les soutient, eux, ils soutiennent le catholicisme, et ils sont restés en quelque sorte des nostalgiques. Il y a des gens qui ont rien appris, rien compris, rien oublié, hein, comme disait Talleyrand. Bon, et ils sont influents. Ces gens-là sont très influents, d'abord dans la haute fonction publique. Les ambassadeurs, c'est tous des nobles, hein. J'exagère à peine. Et l'armée, et la marine nationale, la royale, c'est quasiment tous des nobles, les officiers. Ces gens-là envoient leur aîné à l'armée, leur cadet dans l'église, etc. Le haut clergé, à l'époque, est encore peuplé par des rejetons de familles aristocratiques issues de la noblesse, y compris de la noblesse d'Empire, d'ailleurs, hein, car il y a eu aussi une noblesse d'Empire. Ces gens rêvent d'un régime à l'anglaise, c'est-à-dire une monarchie qui fasse une large place à l'aristocratie. Large place à tout point de vue, pas seulement économique, mais également dans le prestige, dans l'ordre, dans la hiérarchie, etc. Cette droite n'a rien oublié. En plus, parmi ces milieux monarchistes, il y a des milieux monarchistes, les légitimistes entre autres, qui sont très anti-bourgeois industriels, et qui déjà à l'époque accusent les industriels d'avoir établi un régime d'exploitation des travailleurs pire que le paternalisme, bon enfant des seigneurs, etc. Donc il y a une idéalisation des rapports sociaux d'Ancien Régime et une stigmatisation des rapports sociaux industriels. De fait, la bourgeoisie qui a succédé à la noblesse, à l'aristocratie d'Ancien Régime, exploite férocement ses ouvriers, enfin ses prolétaires. Donc il y a une sorte de revendication sociale. Bon. Cette bourgeoisie, elle en a rien à faire de ce sentimentalisme à la gomme. Hein. La grande bourgeoisie industrielle, financière, elle veut un régime qui soit vraiment à sa dévotion. De plus, ce qui a incité les éléments principaux de la grande bourgeoisie financière industrielle à adhérer à la République, c'est la division de ces monarchistes. Parce que non seulement ces monarchistes sont attachés à des formes anciennes, dépassées, etc., contradictoires avec l'égalité civile établie par la Révolution française, mais ils sont divisés. Il y a trois prétendants et ils se mettent pas d'accord. Le prétendant légitimiste veut avoir un drapeau blanc, veut pas avoir le drapeau tricolore. Les orléanistes, eux, veulent bien du drapeau tricolore. C'est les représentants de la grande banque, hein, c'est Louis-Philippe, hein, les Louis-Philippards. Et les bonapartistes, eux, ils sont favorables à un régime autoritaire, dictatorial, très autoritaire, et qui ne va pas à la grande bourgeoisie libérale, qui veut avoir ses aises, qui ne veut pas être à la merci d'un dictateur ou d'un homme qui décide comme ça souverainement. La grande bourgeoisie est attachée au système libéral. L'exécutif doit être soumis à une assemblée. Son influence peut être déterminante. Alors que bon, un dictateur, il fait ce qu'il veut. Et puis aussi, il faut pas oublier que une grande partie de cette bourgeoisie, d'abord il y a des protestants, je crois que Jules Ferry était protestant, me semble-t-il. Il y a beaucoup de francs-maçons et beaucoup de gens qui sont voltairiens, très hostiles au pouvoir de l'Église, des jésuites, des congrégations, etc. Cet aspect est extrêmement important dans la détermination de la politique menée par cette grande bourgeoisie. Ces gens-là sont voltairiens, ils sont contre le pouvoir de l'Église, des églises, de toutes les églises, et ils sont pas forcément athées. La religion, c'est complexe ce truc-là. Cette bourgeoisie voltairienne envoie ses filles dans les collèges religieux. Hein. Et les femmes, bon, c'est bien la religion pour les femmes. Comme ça fait des femmes soumises, assez bêtes et soumises, pas emmerdantes. Ils en font pas une affaire philosophique, ils en font une affaire très pratique. Hein. Bon, la religion pour les pauvres, les femmes, ça va très bien, mais faut pas qu'ils s'occupent de politique. C'est le point de vue voltairien, hein, qui sont très pragmatiques, de la bourgeoisie. Ils sont francs-maçons, alors ils ont l'idéologie du progrès, ils sont positivistes, hein, c'est pas des mystiques, hein, c'est pas des athées militants. Ils veulent pas que l'Église foute son nez dans les affaires politiques. C'est toujours très mauvais. Le christianisme, pour ces gens-là, peut être gênant, soit parce qu'il est réactionnaire, soit parce qu'il est progressiste. Parce que il y a aussi un catholicisme progressiste. Il y a aussi Lacordaire, etc., l'amener danger hein, d'un christianisme social. Après tout, il y a dans le christianisme des éléments qui peuvent être des éléments anticapitalistes.
Certains voient dans la figure de Jésus les prémices peut-être du premier communiste. Hein. Je partage tout ça.
Mais j'en suis tout à fait convaincu. Il peut y avoir une influence chrétienne qui serait une influence tout à fait dommageable aux affaires. Donc, pour plein de ces éléments, la grande bourgeoisie, en France en tout cas, décide de rompre avec cette confusion entre l'Église et l'État.
Donc c'est fascinant, c'est pas une impulsion, entre guillemets, de gauche, cette décléricalisation.
Certes, une partie de la gauche, et en particulier, par exemple, la gauche radicale républicaine, va être à fond dans ce combat anticlérical. Mais en revanche, il n'y a pas confusion entre anticléricalisme et gauche.
Cette impulsion anticléricale vienne des bourgeois, chez cette bourgeoisie, chez ces grands patrons d'affaires. L'Église est aussi un instrument d'oppression. Ils combattent un truc quand même qui sert leur système.
Il y a les deux en même temps. Une réalité n'est jamais complètement blanche ou noire.
Que la religion leur serve comme instrument de domination sociale, ça leur va. Mais il ne faut pas que l'Église aille foutre le nez dans le politique, donc dans le pognon en fait.
Absolument. Je pense que c'est ça. Il faut que l'Église reste à sa place, et pour ces gens-là, elle a une place utile. Lorsqu'elle prône la résignation sociale, etc., et le respect des autorités, du pouvoir, etc., si l'Église était restée tranquillement dans son rôle purement religieux, idéologique, etc., elle n'aurait pas eu ces histoires. Mais elle avait des prétentions, et à l'époque, la collusion entre l'Église catholique française et les milieux réactionnaires, anti-républicains, a conduit à la séparation de l'Église d'État. C'est la faute à l'Église catholique, c'est pas la faute aux dirigeants français qui auraient pu tout à fait s'accommoder d'une Église prêchant la modération, la résignation sociale, etc. La République s'est attaquée au problème dès 1879. Les premières lois visant les congrégations, interdisant l'enseignement, dès que les républicains ont été assurés de leur majorité politique, ils se sont attaqués au pouvoir politique de l'Église. Ça a commencé par l'enseignement. Mais pas seulement, hein, il y a aussi eu une interdiction des congrégations, c'est-à-dire de ces associations religieuses, plus ou moins conventuelles, ou d'enseignement, etc. Les décongrégations ont été interdites, et les jésuites en particulier, hein, qui étaient les bêtes noires de la bourgeoisie républicaine, ont été interdits, mais chassés en quelque sorte. Hein, vous n'avez plus le droit de... Vous êtes interdit d'activité en France, fermez vos établissements, etc. Et c'est des lois qui ont été des lois répressives, hein. C'est-à-dire qu'il s'agissait de virer les religieux de l'enseignement, ils étaient encore très très nombreux. Hein. Il y avait un enseignement religieux extrêmement important. Hein. La loi Falloux,
1850,
prise sous la Seconde République par une majorité réactionnaire. Cette loi soumettait l'instituteur quasiment au pouvoir du curé et du maire, qui était généralement un maire conservateur de droite, etc. Soumettait l'enseignement à l'autorité de l'Église. Hein, il y avait encore des universités catholiques. L'Église imposait le fait qu'un prêtre, même sans diplôme, pouvait enseigner. Il suffisait d'être prêtre ordonné pour avoir le droit d'enseigner aux enfants. Et il y avait de l'enseignement religieux dans toutes les classes. Alors ça, c'est de ça que veut se débarrasser la République.
Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et l'éteignoir, sous la calotte et l'éteignoir. Mais de nos bulletins de vote, nous accableront ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à bas la calotte. Aux urnes citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Cette grande bourgeoisie qui au départ prend l'initiative de cette lutte anticléricale, anticatholique, elle va se trouver renforcée par les radicaux, qui ont un programme social extrêmement avancé à l'époque. Par exemple, le programme de Clémenceau, Georges Clémenceau, le programme radical socialiste, aux élections de 1877, voilà ce que proposent les radicaux, c'est-à-dire les républicains qui sont le plus à gauche. Il propose la suppression du Sénat, qui était une assemblée conservatrice, puisqu'elle était élue par les maires des 36 000 communes françaises. Séparation de l'Église et de l'État. Confiscation des biens des congrégations. Élection des magistrats. Substitution des milices nationales à l'armée permanente. On crée une armée populaire, milice. Autonomie municipale, c'est-à-dire élection des maires par les conseillers municipaux eux-mêmes, élu par le suffrage universel. Impôt progressif sur le capital, sur le revenu et sur les successions. Limitation de la durée légale de la journée de travail. Retraite des vieux travailleurs. Responsabilité des patrons en cas d'accident de travail. Nationalisation des chemins de fer et des mines. Rétablissement du divorce. Reconnaissance du droit syndical. C'est un programme extrêmement progressiste.
C'est Mélenchon, hein, Clémenceau. Clémenceau candidat, hein, parce que Clémenceau élu, c'est une autre paire de manches.
Ah bah, une fois que les radicaux seront au pouvoir, ils vont faire comme les socialistes d'aujourd'hui. Hein. Ils vont s'asseoir sur leurs promesses. Il y a, à ma connaissance, une seule loi due aux radicaux qui sera fidèle à leur programme, c'est l'impôt progressif sur le revenu des personnes. Voté en 1914, au moment où ces gens-là ont besoin d'une unité nationale. Hein, la guerre va bientôt éclater. Hein. Bon, en dehors de ça, les radicaux, comment est-ce qu'ils vont être achetés par la bourgeoisie? Par l'anticléricalisme. C'est le programme anticlérical qui va être appliqué. Ça, c'était une chose qui était dénoncée par un certain nombre de socialistes, dont Jaurès d'ailleurs, qui a dit, hein, je ne sais pas sous quelle forme exactement, mais c'était à peu près ça, que l'anticléricalisme servait de cache-sexe, hein, de paravent au conservatisme social et économique. C'est-à-dire que la bourgeoisie radicale se contentait de son anticléricalisme, un petit peu comme aujourd'hui sur certains sujets, en quelque sorte, hein, de façon à masquer.
Aujourd'hui, on serait socialiste en France parce qu'on aime bien les homosexuels, comme à cette époque-là, on aurait été républicain parce qu'on n'aimait pas les curés.
Ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Non, il est vrai que, en quelque sorte, certaines matières dites sociétales, et qui sont très importantes, hein, ça sert quand même de cache-sexe au conservatisme, voire à la réaction économique et sociale à laquelle on assiste aujourd'hui. Bon, à l'époque, c'était un petit peu la même chose. On a l'impression que la bourgeoisie va lâcher du lest aux radicaux, on va bouffer du curé, comme ça, ça évitera de bouffer du patron, en quelque sorte. L'ennemi, c'est le cléricalisme, disent les radicaux, les corbeaux, etc. Bon, Je ne dis pas que l'Église était pas réactionnaire à l'époque, etc. Mais malgré tout, il y avait d'autres ennemis. Hein. En 1880, le patronat exploite les travailleurs, les propriétaires exploitent leurs ouvriers, leurs locataires, etc. Et donc, il y a un autre combat social. Et d'ailleurs, le socialisme naît à cette époque-là. Le Parti socialiste naît. Hein. Je crois que le premier Parti socialiste, 1879, 8 ans après la Commune. Malgré la répression de la Commune, les idées socialistes se répandent. Alors le problème, c'est que au début, il y a 3 partis socialistes en France. C'est toujours la même maladie en France de division de la gauche. Ça, c'est quelque chose d'épouvantable. Il y a 3 partis socialistes. Il faut dire qu'à l'époque déjà, il y a des opportunistes parmi les socialistes, pas seulement parmi la bourgeoisie. Il y a des gens qui vont aller au gouvernement. Hein, Mitterrand, Briand, etc., seront des socialistes au départ et vont devenir ministres de gouvernement bourgeois. Puis aussi, il y a naissance d'un mouvement syndical puissant avec la CGT qui naît en 1896, qui se donne une charte en 1906, la charte d'Amiens, très majoritairement anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire très méfiante à l'égard des hommes politiques et de l'opportunisme des hommes politiques, qui font des promesses au moment des élections et qui ne les tiennent pas. Donc le mouvement syndical, à cette époque-là, se tient très prudemment à l'écart. Il se développe puissamment. Hein, il y a des luttes avant 1914 qui sont extrêmement puissantes. Ceci est parallèle à la politique anticléricale. Et c'est pas complètement indépendant et indifférent. Donnant satisfaction à la petite bourgeoisie sur l'anticléricalisme, ça permettait d'oublier complètement les réformes économiques et sociales ou toute transformation économique et sociale qui serait dommageable à la bourgeoisie. Ce qui ne veut pas dire que je trouve pas des vertus à la loi de séparation de l'Église et de l'État, car ça, dans son désir de se débarrasser de l'influence de l'Église, la bourgeoisie républicaine en France établit une loi qui a de très grande qualité et qui peut servir encore aujourd'hui de modèle à l'ensemble des États. Comment établir une paix religieuse? Comment interdire aux églises, quelles qu'elles soient, aux religions, quelles qu'elles soient, d'intervenir dans le débat politique, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne donnent pas de mots d'ordre, ni de... On voit ça dans la République américaine des États-Unis aujourd'hui, et les églises sont extrêmement puissantes. Mais elles n'interviennent pas en tant que telles. Aucune religion ne prime sur les institutions, qui sont des institutions à peu près laïques, quoi. Mais c'est en France où le mouvement a été le plus radical. Le plus net, quoi, sans ambiguïté aucune. En Allemagne, aujourd'hui, par exemple, l'État, les contribuables, financent le culte. Il y a un impôt. Alors, vous avez le droit, bien sûr, de vous déclarer athée et de ne pas payer l'impôt sur le culte. Bon, la plupart des Allemands payent pour leurs pasteurs et leurs curés, hein. Ce qui n'est pas le cas en France.
À l'exception de départements français, qui n'étaient pas français en 1905, l'Alsace et la Moselle sont sous giron allemand depuis 1870. Donc cette loi de 1905, aujourd'hui, s'applique à tout le territoire français, à l'exception de ces départements d'Alsace et de Moselle. Une chose qui a d'ailleurs été confirmée, je crois, par le Conseil d'État en 2013. Donc l'Alsace et la Moselle ne sont pas exactement des départements français comme les autres.
Oui, en 1918... la France récupère la Moselle, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, qui faisaient partie de l'Empire allemand. Et l'Assemblée nationale, Bleu Horizon, celle qui est issue des élections de 1919, n'applique pas la loi de 1905 à ces 3 départements, parce que c'est une majorité réactionnaire. Et depuis, on n'est jamais revenu là-dessus. Dans ces 3 départements, eh bien, l'État continue de subventionner les cultes. Essentiellement le culte catholique, évidemment.
Et c'est pour ça qu'on peut aussi trouver des crucifix dans les salles de classe, dans ces départements. C'est assez dangereux comme situation, parce que d'aucuns représentants d'une autre religion, par exemple, pourraient dire « Oui, votre loi de 1905, elle est bien gentille, il y a des exceptions pour les Alsaciens, pourquoi pas pour nous ?»
Bien sûr que cette exception pose problème aujourd'hui, hein, en ce moment où la laïcité est assaillie, attaquée par l'existence en France d'une importante population de religion musulmane. Effectivement, ces gens qui pour l'instant ne demandent pas l'alignement sur l'Alsace-Lorraine, mais seraient en droit effectivement de dire « mais pourquoi y aurait-il des départements ?» où les cultes sont subventionnés et pas nous.
J'ai beaucoup de mal à imaginer le contribuable alsacien payer pour financer des imams.
Bon, je pense pas que ce soit le problème principal. Nous reviendrons dans la deuxième émission sur les déboires, les péripéties de la laïcité depuis 1905. Je pense qu'il faudrait revenir un petit peu à la situation des débuts de cette Troisième République.
Et voilà les amis, c'est la fin du premier épisode de notre histoire de la loi de séparation des églises et de l'État. La suite au prochain épisode. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres choses sur le www.polemix-et-la-voix-off.com. Salut.
Radio G. 101.5 FM.
Je suis résistant comme un Sherpa, ne cherche pas. Entre les moi, il y a la liberté qui nous sépare. À l'écart de l'emploi éphémère, je vis là où l'illusoire est monnaie d'échange. J'ai fui, ma philosophie implique l'art véritable et irritable. Dans le monde, des contrats sur la table, fable indomptable au pays des morts vivants, condamné à faire moins d'argent qu'un disque de diamant. Et encore